Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce podcast de l'été de la librairie des étudiants. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Véronique de la librairie Le Marque-Page, située à Saint-Marcellin. Entre l'histoire de son bâtiment, vieux de plusieurs dizaines d'années, ainsi que ses coups de cœur de la rentrée littéraire et ses coups de cœur intemporels, je vous propose un voyage dans la littérature. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Véronique à la librairie Le Marque-Page. Bonjour Véronique.
Bonjour Thomas.
Merci de me recevoir ici dans votre librairie, la librairie Le Marque-Page. Quelle est l'histoire de ce bâtiment ?
Alors la librairie du Marque-Page, c'est une librairie qui est très ancienne. On a un petit peu fait quelques recherches historiques et on a remonté la date de création à 1910. Donc c'est une librairie qui a plus d'un siècle, librairie indépendante que j'ai repris moi en 2017.
Elle a toujours été implantée ici, dans cette rue ?
Oui, elle a toujours été implantée ici. Auparavant, c'était une caisse d'épargne.
D'accord, voilà. Il y a eu un changement.
Voilà, la devanture est restée en bois, voilà, toujours la même. C'est ce qui fait, je pense, son charme. Voilà, et puis elle a gardé son âme, en tout cas.
Vous avez toujours été libraire de profession ?
Je suis libraire depuis plus de 15 ans maintenant, mais j'ai exercé divers métiers, un petit peu dans l'événementiel, notamment. Mais la majorité de ma carrière, on va dire, j'étais libraire.
Et quelle a été la bascule de se dire, tiens, un jour, je vais reprendre une librairie ou je vais être libraire ?
Alors, devenir libraire, ça a été vraiment pendant mes années d'études où finalement, j'ai décroché un petit boulot dans une librairie et ça a été un peu la révélation. Voilà, j'ai poursuivi après en tant que libraire salarié dans différentes structures, des grandes librairies, et puis des toutes petites et des librairies indépendantes. Et puis l'histoire que j'ai avec Le Marque-Page, je dirais, c'est un vrai coup de cœur, en fait. Je suis tombée sur cette librairie un peu par hasard, pendant une période de recherche d'emploi. Et je ne sais pas, il s'est passé quelque chose quand je suis rentrée dans cette librairie. Je ne savais pas que cette librairie était à vendre, mais je l'ai su peu de temps après. Et c'était une espèce d'évidence. Je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi.
Dans l'aventure, au marque-page.
Lance-toi dans l'aventure. Et voilà, c'était un coup de cœur et puis une envie de reprendre, d'être aussi indépendant encore et encore plus.
Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors en parlant de coup de cœur, peut-être parler de coup de cœur littéraire.
Ouais.
Il y a la rentrée littéraire qui approche, qui est même déjà là.
Oui, qui a déjà bien commencé.
Quels sont vos coups de cœur justement dans cette rentrée 2024 ?
Alors, la rentrée de cette année est très riche. Alors, moins de publications et de moins en moins de publications. Mais pour nous, on ne peut que dire que c'est tant mieux.
Oui, parce qu'il y a un grand débat là-dessus.
Oui, et je pense qu'on a certes de moins en moins de nouveautés qui paraissent à la rentrée littéraire. Mais pour nous, c'est pas un mal pour un bien, c'est juste un bien. Ça nous permet de découvrir des œuvres et d'avoir le temps de les découvrir, le temps de les sélectionner et de leur donner de la place en librairie. Beaucoup de publications, ça veut dire beaucoup de créations, c'est très bien. Mais ça veut dire aussi peut-être moins de visibilité, et notamment pour les premiers romans, où ces rentrées littéraires sont en général les auteurs les plus connus sont là.
Hein. Oui, bien sûr.
La rentrée littéraire ne commence pas sans Amélie Nothomb.
Bien sûr, comme chaque année.
Voilà, comme chaque année, c'est un marronnier. On a vraiment les grands auteurs et les auteurs qui ont publié un roman, voire pas du tout, passent un petit peu plus invisibles. Là, on a moins de romans et pour nous, ça veut dire peut-être plus de qualité, de temps, de visibilité et plus de qualité sur le temps qu'ils vont rester en librairie. Et moi, je trouve que c'est vraiment un bien. Et je me dis peut-être même encore un peu moins, ça serait peut-être encore un peu mieux. Ou alors, je ne sais pas, réparti peut-être sur l'année un peu différemment. Voilà, parce que là, on en a beaucoup et après, on en aura un peu moins. Donc,
D'autant plus que la rentrée, vous la commencez assez tôt. Normalement, c'est en mai, c'est ça, mai-juin, que vous commencez à recevoir les premiers services de presse ou...
Oui, on commence à travailler, effectivement, mai-juin, sur ces sélections-là. Donc, en effet. Mais pourquoi pas imaginer, il y a toujours une rentrée littéraire d'hiver qui passe un peu plus discrètement, mais qui apporte aussi ses petites pépites. Mais pourquoi pas imaginer encore une, je ne sais pas, une rentrée vacances, on ne sait pas.
Une rentrée avant les vacances, ah, ça ouais. pourrait être une idée. Hein.
Ouais, une, je ne sais pas, une, la sortie des vacances ou je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, ça reste un événement important pour nous. C'est aussi une joie, je pense. Enfin, il y a ce côté-là. On parlait hier qu'on est peut-être des chercheurs de trésors un peu ratés.
Oh, pas forcément.
Dans le sens où, effectivement, on a toujours on est un peu émoustillé, voilà, on est un peu enthousiaste à se dire bon bah allez ça y est c'est là, qu'est-ce qu'il sort, qui va sortir du lot. Il y a ce petit côté un peu compétition malgré tout, hein, parce qu'il y a les sélections de prix qui vont s'enchaîner rapidement derrière. Bah mine de rien, ça a un petit côté jouissif, en fait, quelque part. Et à la fois, voilà, on est enthousiaste de se dire qu'est-ce qu'on va découvrir. Parce que quelques mois auparavant, on choisit sur des résumés, on ne sait pas si finalement on sera bon, pas bon. Si ça va nous plaire, si on a envie de le porter, on n'en sait rien.
Ouais, c'est la surprise.
C'est aussi la surprise, ouais.
Donc, dans toutes ces surprises, est-ce que vous avez déjà peut-être une recommandation ou deux à nous faire pour la rentrée littéraire ?
Ouais, tout à fait. Je viens de terminer le livre d'Étienne Kern qui s'appelle La vie meilleure, qui est édité chez Gallimard. Et c'est un très joli texte. En fait, si je vous dis méthode Coué, ça vous parle ?
Oui.
Voilà. Et en fait, comme beaucoup de gens, ça fait sourire. Parce que la méthode Coué, c'est un peu ce qui a été peut-être tourné en
dérision.
En dérision.
Ouais, complètement.
Hein, le je vais bien, tout va bien.
Ouais.
Et en fait, Étienne Kern est parti un peu de ce constat-là et s'est dit mais en fait, qui était Émile Coué ? Et il développe son roman autour de l'histoire de cet homme. Alors bien évidemment, il y a une bonne partie qui est romancée, hein, mais quand même avec des faits historiques. Il a fait pas mal de recherches sur la vie de cet homme-là, qui était un pharmacien, début des années 1900, voilà, et qui devient hyper célèbre autour de 1910 avec sa fameuse méthode qui était les balbutiements en fait du développement personnel, où voilà, c'est inspiré de théories de psychologie, etc. Mais drôle de personnage, un peu quelque part ce que Étienne Kern rend hommage à Émile Coué, qui est presque un espèce de perdant magnifique en fait. C'est quelqu'un qui a eu une petite célébrité et puis finalement c'est un peu retombé, voilà, dans le ridicule, ou pourquoi pas, mais ceci étant dit, il a probablement aidé un certain nombre de personnes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans l'écriture d'Étienne Kern, c'est une fluidité, il y a beaucoup de douceur, il y a une certaine poésie, et puis on sent, une espèce de gentillesse, enfin quelque chose comme ça, de rendre hommage à ce personnage-là. J'ai trouvé ça très beau, en fait. Il y a quelques jolies phrases qui nous amènent nous-mêmes à une propre réflexion sur la joie, sur le bonheur, sur est-ce qu'on s'empêche pas d'être heureux, est-ce qu'on devrait pas se répéter tous les jours que tout va bien, voilà. Finalement, en arrière-plan, il y a une réflexion personnelle qu'on a avec ce roman-là.
Donc en refermant le bouquin, des fois, on peut peut-être aller vers d'autres horizons.
Ouais, probablement. Voilà, moi, depuis 2 jours, je me dis, je vais bien, tout va bien tous les jours.
Oui, c'est vrai. Quand on relativise par rapport à d'autres, des fois, on peut dire tout va bien.
Non, voilà, c'est l'effet Coué. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un très très joli texte. C'est le deuxième livre de Étienne Kern qui avait déjà
fait paraître
qui
les
avait
envolés.
Déjà été repéré, voilà, par les envolés, qui a eu le Goncourt
du premier roman.
Ouais, du premier roman, 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Joli texte, joli. Jolie découverte.
Étienne Kern a rajouté dans la fameuse pâle, la pile à lire,
ouais,
qui n'en finit plus de monter au plafond.
Bon, non, carrément pas. C'est sans fin, cette histoire. Mais en même temps, voilà, c'est un repère. Si notre pâle n'est pas suffisamment
haute,
ça ne va pas. On commence à paniquer.
Mais du coup, est-ce que là, on pourrait appliquer peut-être la méthode Coué là-dessus ? Dire que sinon il y a peu de livres, ça va quand même parce qu'il en reste.
Oui, bah bien sûr, évidemment.
Sinon on va chez nos libraires, ça va plus vite.
Bah voilà, on peut toujours, voilà, nous on est peut-être des pharmaciens du livre, je ne sais pas.
Ah, c'est une belle image.
Pharmaciens de la lecture.
Ouais, c'est ça. La vie meilleure, donc en premier coup de cœur.
Ouais.
Un deuxième peut-être.
Un deuxième coup de cœur, oui. Alors c'est, j'avoue, c'est la première fois que j'ai lu un Sandrine Colette.
D'accord.
Voilà, je ne sais pas, je l'ai vu passer sur les tables et les rayons de la librairie, en n'ayant jamais forcément de temps de le lire. Et eh bien, je ne sais pas, il y a quelques mois, en préparant notre sélection, le titre m'a attiré, il s'appelle Madeleine avant l'aube, allez savoir pour quelle raison, mais bref, ça m'a donné envie de lire un peu plus. Et c'est une très belle découverte. Je crois que ce roman est hyper abouti.
Oui, j'ai l'impression qu'il vous a marqué ce roman. Vous
Oui,
avez l'air sans voix.
bah complètement. C'est, on se retrouve dans un village. On ne sait pas exactement où on est. On ne sait pas exactement à quelle époque on est. On sait qu'on est aux montées. C'est quelque part paumé, ça c'est sûr. C'est à la campagne. Et la vie là-bas semble pas vraiment rose tous les jours. La vie est dure, c'est une vie paysanne qui est beaucoup liée aux conditions climatiques. Enfin, et vraiment, alors il y a une sorte de. Il y a à la fois une sorte de torpeur, il y a quelque chose de pesant. On ne sait pas exactement, mais. En tout cas, c'est une drôle d'atmosphère. Moi, je m'imaginais vraiment une maison en pierre avec un brouillard pas possible. Et puis, voilà, des arbres un peu morts. Bon, voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des nobles, en tous les cas, qui possèdent les terres. Et qui, eux, manifestement, sont quelque part un peu sans pitié. Voilà, avec ces gens-là démontés. On est là-dedans, il y a des histoires, il y a une histoire qui se pose entre deux sœurs, voilà, qui ont des vies, à la fois une trajectoire commune et à la fois des vies complètement différentes en tant qu'adultes. On est là-dedans, et puis un jour, dans ce village-là, arrive une petite fille, on ne sait pas d'où elle sort, et elle s'appelle Madeleine, enfin, en tout cas, elle la prénomme Madeleine. Et cette jeune fille va en fait grandir parmi les habitants du village et se révéler être. Une sacrée petite fille et une sacrée jeune femme, en fait, par la suite. Voilà. Complètement rebelle, je crois. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Sandrine Cohen, ce qu'elle pose. Comme ça, il y a une puissance, il y a quelque chose de. On a envie d'y retourner. Il y a quelque chose de mystérieux, d'un peu étrange aussi. À la fois, c'est très beau. Enfin, on sent que. Elle a posé des caractères et il y a une profondeur en fait dans ses caractères, dans ces personnages-là. Moi, j'étais assez bluffée, voilà.
Ah oui, vous en restez sans voix.
Oui, c'est ça.
Bon. Vraiment, alors celui-là,
Étonnant.
vraiment à rajouter. Gros coup de cœur du
Oui,
marque-page, alors.
complètement, complètement.
Bon.
Voilà.
Alors là, c'est pour la rentrée, mais si je vous pose la question sur des coups de cœur intemporels, peut-être un roman classique ou un roman contemporain à lire, à relire, à emmener peut-être en vacances aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que ce serait pour vous?
Alors, je dirais qu'il y a deux livres qui sont pour moi des classiques, qui ont marqué aussi ma vie et qui font probablement que je suis devenue libraire. Je dirais Le Monde d'hier de Stefan Zweig.
D'accord.
Stefan Zweig, où je pense comme pas mal de lycéens de mon époque, on a étudié le joueur d'échecs. J'étais à cette époque-là assez éloignée de la lecture, parce que je pense adolescente, quoi. On a d'autres choses à penser quand on est adolescent.
C'est vrai.
Voilà. Et je tombe un peu amoureuse de cette écriture que je trouvais profondément humaine et qui reflétait parfaitement les sentiments. Je dévore tous les Stefan Zweig et je tombe sur Le Monde d'hier qui est aussi le récit d'une époque en fait. Et vraiment, je pense que c'est un livre qu'on peut relire aujourd'hui et on y trouvera certainement voilà, des petites comparaisons avec notre époque un petit peu troublée. C'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà.
Et merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour cet entretien. Et puis, donc, on n'oublie pas de venir vous rendre visite à la librairie Le Marque-Page à Saint-Marcellin.
Merci, merci et avec grand plaisir.
Voilà pour cet entretien réalisé avec Véronique dans sa librairie Le Marque-Page située à Saint-Marcellin. L'intégralité des livres dont nous avons parlé avec Véronique sont bien sûr à retrouver dans la description du podcast de l'émission du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre notre tournée des librairies avec une nouvelle rencontre. D'ici là, je vous souhaite d'avoir de belles lectures.